Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Guerre civile en Libye, trois leaders africains participent ce jeudi à une rencontre à Brazzaville pour essayer de trouver des solutions au conflit libyen. 10 jours après une conférence à Berlin et avant le prochain sommet de l'Union africaine. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et ses homologues de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, sont présents à cette réunion, de même que le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, et le représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. L'un des deux principaux protagonistes du conflit en Libye, à savoir Fayez al-Sarraj, leader du GNA, le gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU, va participer à la réunion à huis clos, a déclaré à l'AFP une source diplomatique congolaise. Des délégués de son rival, le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, seront aussi reçus séparément à huis clos, selon cette même source. La lutte contre les djihadistes en Afrique maintenant. Au Tchad, les forces armées ratissent aujourd'hui le secteur où 3 soldats tchadiens et une femme civile ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram sur l'île tchadienne de Choua, dans le lac Tchad. C'est ce qu'annonce le général Taher Erda, chef d'état-major des armées tchadiennes. Les éléments de Boko Haram ont attaqué notre position à 2h du matin, heure locale, 1h temps universel, sur l'île de Choua, tuant 3 de nos militaires et une femme civile, a précisé le général Erda en soulignant que les militaires tchadiens ont neutralisé 21 éléments de Boko Haram et poursuivent les ennemis qui ont réussi à prendre la fuite. Afrique de l'Ouest maintenant, politique en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle d'octobre, Guillaume Soro, actuellement en exil, a annoncé qu'il s'opposerait à toute modification de la constitution dans son pays, jugeant inacceptable de changer les règles du jeu à quelques mois seulement du scrutin. Plus de détails sur les déclarations de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, mercredi, avec Bagassi Koura.
C'est tout de même inacceptable qu'on veuille changer les règles du jeu. Nous sommes outrés qu'en Afrique, à 6 mois d'élection, à chaque fois on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen, a dénoncé avec véhémence Guillaume Soro depuis Paris. J'ai déclaré ma candidature en octobre 2019. Comment admettre qu'en cours de jeu, on change les règles, a-t-il ajouté. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, laisse planer le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat non autorisé par la Constitution. Début janvier, il a annoncé qu'il proposerait au Parlement des modifications de la Constitution, assurant qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle. Alassane Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison des changements de constitution en 2016. Guillaume Soro, âgé de 47 ans, toujours député, a tenté le 23 décembre de revenir dans son pays après 6 mois d'absence. Il est reparti en Europe car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays. Plusieurs de ses proches, dont des députés, ont été arrêtés et sont toujours en détention.
Contestation en Guinée maintenant. Le président guinéen Alpha Condé refuse toute ingérence étrangère dans les affaires de son pays, précisant que personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire. Le pays est confronté depuis des mois à une vague de manifestations de l'opposition qui réclame une plus grande implication de la communauté internationale. Les détails avec Eric Manirakiza.
En 1958, nous avons osé dire non pour prendre notre indépendance. Malgré tous les risques, nous sommes toujours debout, a dit hier Alpha Condé devant un parterre de diplomates. La Guinée avait voté non au référendum instituant une communauté franco-africaine proposée cette année-là par le général de Gaulle, accédant peu après à l'indépendance. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État d'obliger un troisième mandat à la fin de l'année. À la mi-janvier, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré la France particulièrement préoccupée. Nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires, à les écouter, mais dans le respect réciproque. C'est le peuple de Guinée qui décide de son avenir. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde, a déclaré M. Condé. Il a aussi souligné que son pays n'était pas le seul à traverser des crises. Nous voyons des manifestations, nous voyons des crises partout, a-t-il dit.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Mali, retour sur la liberté provisoire accordée ce mois-ci au général Amadou Aya Sanogo et à des co-accusés dans l'affaire des 21 bérets rouges tués en 2012 après avoir essayé de contrecarrer le putsch d'Amadou Sanogo en mars de la même année. À Kati, ville de garnison proche de Bamako où étaient basés les militaires assassinés, notre correspondant Lamissa Sangaré a recueilli les réactions suivantes.
Pour moi, la libération de Aya Sanogo est contradictoire pour certains. Maintenant, c'est une bonne chose pour d'autres. Maintenant, les mécontents sont maintenant ceux qui ont perdu leurs parents. Du côté politique, je pense que Aya a contribué à un changement au Mali ici. Je peux dire en conclusion que la libération de Aya a été bénéfique pour moi.
Je pense que c'est quelque chose de salutaire. Ça montre que le Mali est en train d'avancer dans le cadre de la paix. On doit se pardonner. On en a besoin.
Ça ne m'a pas surpris parce que la loi impose que quand on inculpe quelqu'un ou bien quand on prend quelqu'un pour le juger, il y a un délai normal qui doit être observé avant son jugement. Je ne suis pas juriste, mais je crois que Aya a dépassé ce délai. Il a fait pratiquement 6 ans, sinon 7, sans être jugé. Donc si l'État ne peut pas le juger, s'il le libère à cette indifférence de l'État, ils veulent faire la lecture de cette manière-là. Et chacun a ses droits. Aya aussi a ses droits d'être jugé dans un délai. Si ce délai est expiré, ce n'est ni la faute à Aya, ni la faute à ceux qui ont perdu leur leur. C'est une indifférence de l'État. Les hommes viennent, ils font leur temps dans l'État. Ils s'en vont. L'État demeure. L'État a failli, c'est une faute. Et c'est très dangereux, parce qu'il ne faut pas voir la chose aujourd'hui, mais il faut voir ça demain. Ceux qui ont fait la faute, ils ont fait la faute au nom de l'État. Et ils vont partir demain. Ceux qui vont venir après eux, ils vont assumer, parce que l'État, c'est une continuité. Ça peut apaiser le climat social, mais de l'autre côté, ceux dont les parents ont été victimes, ça n'apaise pas leur colère, hein, parce qu'il ne peut pas avoir de conciliation sans justice. Ne serait-ce qu'une forme quelconque de justice, si on le faisait et puis on le libérait, tout ça, on pourrait le comprendre. Mais faire un semblant de justice, puis le libérer comme ça, les victimes ont des progénitures, peut-être ils vont grandir avec ça. Un jour, ils seront responsables. Dieu seul sait comment ils vont gérer le pays, dans quel esprit de conscience ils vont gérer l'État. Ça, il faut avoir peur.
Pour moi, je pense que après 7 ans d'emprisonnement sans jugement, il était temps que la loi vraiment soit appliquée, quelle que soit la gravité de l'acte. On ne doit pas reprocher quoi que ce soit au magistrat ou bien au procureur qui a pris la décision de le mettre en liberté provisoire. Si on n'arrive pas à le juger, prouver qu'il est coupable ou il n'est pas coupable, qu'on le mette en liberté provisoire. Mais le problème maintenant au Mali, quand tu es en liberté provisoire, tu n'es plus jugé. Est-ce qu'il sera définitivement déchargé de ce qu'il a fait? Qu'il soit libéré ou bien qu'il ne soit pas libéré, cela n'a rien à voir avec le climat politique. Mais qu'est-ce qu'Aya a fait avant d'aller en prison politiquement? Il n'a rien fait. Il a été arrêté parce qu'il est présumé coupable de crime. Si tel n'est pas la réalité, qu'on le mette en liberté ou bien qu'on amène la preuve comme quoi il est coupable, ça n'a rien à voir avec le climat social. Rien à voir.
Des réactions à la remise en liberté provisoire du général Amadou Aya Sanogo au Mali. Et pour terminer, ici aux États-Unis, le président Donald Trump, ses avocats et la Maison Blanche ont lancé mercredi une offensive généralisée pour empêcher son ancien collaborateur John Bolton de témoigner au procès en destitution du chef de l'exécutif ou de publier un livre contenant des confidences embarrassante. M. Trump s'en est pris vivement à son ex-conseiller de la sécurité nationale, Jean-Roger Bion.
Le président républicain s'étonne que son ancien conseiller, à peine parti de la Maison-Blanche, ait, je cite, écrit immédiatement un livre méchant et faux, faisant fi des règles de confidentialité. La Maison-Blanche s'est opposée mercredi à sa publication, mais d'après le New York Times, le président américain aurait bien confié en août à John Bolton qu'il comptait conditionner le maintien de l'aide américaine à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête à Kiev visant des responsables démocrates dont l'ancien vice-président Joe Biden. Cette accusation est au cœur même de la procédure d'impeachment lancée par les parlementaires démocrates qui accusent le président américain d'abus de pouvoir et d'entrave à l'enquête du Congrès. À la reprise du procès hier dans l'après-midi, l'élu démocrate Adam Schiff, qui fait office de procureur en chef, s'est immédiatement emparé du sujet. Il y a un témoin qui, s'il est assigné à comparaître, est prêt à répondre à vos questions, a-t-il lancé au 100 sénateurs chargés de juger le président. Pour les démocrates, il s'agit d'un développement majeur qui requiert que John Bolton témoigne au procès en destitution. La question sera soumise à un vote vendredi ou samedi. Pour citer John Bolton comme témoin lors du procès, les démocrates doivent obtenir l'appui d'au moins 4 sénateurs républicains.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.